Bonjour à tous et à toutes. Sur le site internet du Sénat, on apprend qu'environ 700 000 majeurs font actuellement l'objet d'une mesure de protection, c'est-à-dire plus de 1,3% de la population française majeure. On apprend aussi que la France n'a jamais connu un nombre aussi élevé de majeurs protégés. La principale cause du phénomène, continue cet article du Sénat, tient à ce que depuis plusieurs années, les régimes de protection des majeurs ont pu connaître, par rapport à leur esprit initial, deux types de dérives. Le dispositif légal de la mise sous tutelle, initialement destiné à protéger les majeurs souffrant d'une altération de leur faculté mentale, est souvent utilisé plus largement pour les personnes en grande difficulté sociale. Et la deuxième dérive serait que le principe de graduation des mesures n'est souvent pas respecté. Nous allons développer ce sujet de la mise sous tutelle dans un cas peut-être un peu plus particulier que ce que je viens de décrire, avec l'association Alma 34, qui est la Fédération de la lutte contre la maltraitance, qui est aussi un centre d'écoute basé à Montpellier. Alma 34 répond à tout appel qui alerte au sujet d'une maltraitance à l'encontre de personnes fragiles, âgées ou handicapées. L'association Alma 34 est accessible à un numéro de téléphone que Madame Hélène Albert, à mes côtés, qui est présidente d'Alma 34, va nous donner.
04 67 04 28 50.
Bonjour Hélène. Bonjour. Albert. À nos côtés aussi, Monsieur Jean-Claude Cadillac, médecin psychiatre pour l'association Alma 34 et peut-être d'ailleurs pour d'autres organismes.
Bonjour.
Bonjour. Alors, la mise sous tutelle, c'est le sujet que nous allons développer avec vous, association Alma 34, monsieur Cadillac et madame Albert. Est-ce que vous auriez d'autres éléments à apporter, monsieur Cadillac, par rapport à cette mise sous tutelle, peut-être plus en rapport avec votre association Alma 34?
Oui, alors quelques généralités d'abord. Je crois que vous avez souligné déjà qu'il y a eu une réforme des tutelles. Et cette réforme des tutelles a eu pour projet de donner une place plus importante au discours de celui qui est mis sous tutelle et un rôle plus important au tuteur dans son rôle d'accompagnement. Deuxième remarque, si vous voulez, lorsque l'on va parler de tutelle, il y a des niveaux de protection qui sont différents. Et effectivement, actuellement, les mesures les plus courantes sont les mesures de ce qu'on appelle de curatelle aménagée, qui laisse beaucoup plus de souplesse qu'avant. Troisième remarque, si vous voulez, puis je me tairai, je veux dire que si on aborde ce problème sous l'angle de la maltraitance, il faut quand même faire au moins deux ou trois catégories. Il y a déjà tous ceux qui acceptent, voire demandent une mesure de tutelle. Il y a ceux à qui elle est imposée. Ensuite, si vous voulez, il faut se dire que s'il y a une mesure de tutelle, c'est qu'il y a de l'argent à gérer. Soit l'argent personnel qui vient de, par exemple, l'allocation handicapé adulte, soit des ressources liées à la famille.
Alors, vous avez donné beaucoup d'informations. Je vais peut-être vous faire redire, repréciser des choses que vous avez déjà dites dans votre exposé. Mais en fait, l'objectif du mis sous tutelle, d'abord, avant tout, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on va mettre sous tutelle? Et quel est l'objectif de cela? Hélène Albert, peut-être.
Je pense que c'est d'abord une mesure de protection. Et c'est toujours un peu difficile de faire passer le message, parce qu'effectivement, c'est vécu, comme le mot l'indique, tutelle.
Alors, c'est plutôt de la bienveillance qui est derrière.
Oui, parce que c'est quand même fait pour protéger la personne. Voilà. On a quand même de nombreux cas où... effectivement, c'est ce qui permettra à la personne de continuer à vivre avec son argent. Alors, soit parce qu'elle en a peu, dans le cas des cas sociaux, etc., soit parce qu'elle en a et que là, il y a quelques personnes qui attendent. C'est quand même des cas relativement fréquents. Et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. C'est donc une protection de la personne et c'est pas forcément une sanction. Les gens ont tendance à le percevoir, y compris la famille. Je vais pas faire une mesure sous tutelle. Alors je pense que c'est vrai que maintenant, il y a quand même plus de personnes personnes âgées, donc ça aussi, ça explique peut-être le nombre de tutelles en augmentation. Et elles ont, par rapport à la crise que l'on est en train et qu'on a encore subi encore plus, c'était un public qui avait un peu d'argent par rapport à d'autres. Donc, si vous voulez, la tendance, elle devient forte d'emprunter un peu ou de demander ou de prendre un peu plus d'argent aux parents âgés.
Donc là, on dérive un petit peu de la mesure de protection.
Pour ça qu'on finit par mettre des mesures de protection aussi. C'est où les gens n'ont pas du tout de revenus, il faut les aider à le gérer. Alors où effectivement il faut les protéger de personnes, on va dire, pas très mal bien. Et là on est en plein dans la maltraitance. Parce que ça peut avoir des effets relativement importants.
On y reviendra sûrement peut-être dans des cas, bien sûr, donnés d'une façon anonyme mais concrète. Évidemment. Alors qui peut demander la mise sous tutelle pour une personne ? Monsieur Cadillac.
Eh bien, si vous voulez, tous les cas sont possibles. Généralement, elle est demandée par un tiers, la mesure de tutelle. C'est bien rare les gens qui demandent d'être mis sous tutelle. Hein. Alors ça arrive, par exemple, vous avez des gens qui sont accros au jeu, qui sont en train de perdre toute leur fortune et qui vont demander, en quelque sorte, d'être protégés. Voilà. Et cette demande aussi, vous la retrouvez, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il y a un handicap mental, puisque bon, moi je vous parle surtout du handicap, il est évident que la personne handicapée mentale connaît souvent ses limites, donc il se dit je peux pas me débrouiller toute seule, j'ai besoin d'être aidée. Tandis que à ça je peux opposer, si vous voulez, le handicap psychique, qui lui au contraire ne reconnaît pas, si vous voulez, ses limites, donc il va y avoir une tutelle beaucoup plus autoritaire imposée à lui. Et entre les deux, vous avez l'handicap cognitif, si vous voulez, qui recouvre entre autres, bien sûr, tous les problèmes des personnes âgées, maladie d'Alzheimer, etc. Eh bien, celui-là, il a tendance à surestimer ses possibilités. Donc, vous avez, vous voyez, des situations différentes selon le type de handicap.
Voilà, qu'il faut analyser à ce moment-là, au moment de cette demande. Alors, est-ce que les démarches à accomplir pour une mise sous tutelle sont lourdes, longues ? Comment ça se passe ?
Les démarches, si vous voulez, généralement, elles viennent, comme je vous ai dit, de la famille. Hein. On va simplifier, les trois quarts du temps, c'est la famille qui est inquiète parce que, bon, elle a peur que cet argent soit dilapidé ou mal utilisé. Donc, on va s'adresser au juge des tutelles. Le juge des tutelles, donc, va recevoir la demande et il va demander immédiatement une expertise, c'est-à-dire qu'il va demander, généralement c'est un psychiatre qui intervient, et qui va définir le niveau de capacité pour juger si la tutelle est ou non justifiée. Une fois que cette démarche est passée, à ce moment-là, bon, ça va relativement vite. Je ne connais pas exactement les délais, parce que ça dépend aussi de l'encombrement du juge des tutelles. Mais bon, voilà.
Alors, une fois que on a mis sous tutelle une personne, est-ce qu'on peut la retirer, cette mise sous tutelle de la personne ? Ou est-ce qu'elle est...
Bien sûr.
Combien de temps ?
Aucune tutelle, si vous voulez, sont données pour un temps défini et elles sont renouvelables. Il est évident que si une personne, dans cet intervalle de temps, estime que cette tutelle est abusive, il peut demander... En s'adressant directement au juge des tutelles, que cette mesure soit révisée. Ça peut être le cas, par exemple, de quelqu'un qui a eu une période très difficile dans sa vie, soit sur le plan social, soit sur le plan psychique, soit les deux à la fois, souvent. Et à ce moment-là, il peut demander, si vous voulez, que cette mesure soit révisée. Donc, le procédé va être le même, si vous voulez. Il va falloir qu'il aille voir, qu'il fasse une demande... Il va falloir qu'il passe devant aussi un expert, et c'est possible. Enfin, c'est pas facile.
C'est pas facile quand même, oui. Alors, et comment est-ce qu'est désigné le tuteur ou la tutrice si la personne qui en bénéficie de cette tutelle ne la désigne pas elle-même ?
Alors, c'est l'appréciation du juge des tutelles. Là, son appréciation donc, est très importante. Bon, la plupart du temps, il va essayer pour des mesures de bon sens, de pratique, etc., de nommer quelqu'un qui est très près de la personne, c'est-à-dire un membre de la famille, mais lorsqu'il sent, si vous voulez, qu'il peut y avoir des problèmes justement intrafamiliaux, eh bien il va demander à ce que cette tutelle soit portée par un tiers. Mmh. Voilà. Alors parmi ces tiers, si vous voulez, vous avez en gros actuellement soit des individus qui ont été reconnus aptes à faire cette mesure et qui ont un mandat de justice, ou alors, si vous voulez, des associations. C'est le plus souvent la formule actuellement la plus fréquente.
Mmh. Parmi le nombre d'appels que vous recevez au centre ALMA, est-ce qu'il y a des cas qui correspondent à des difficultés de mise sous tutelle ? Nous passerons pas concret juste après notre pause musicale, ouais. Mais j'aimerais d'abord avoir une idée de ce combien ça représente de situation, cette mise sous tutelle.
Non, j'aurais du mal à évaluer le pourcentage, mais ça représente un certain nombre de cas, parce que c'est l'argent, hein, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Et si effectivement Jean-Claude Cadillac a raison, les juges ont un peu tendance à donner la tutelle à la famille. Alors là, j'avoue que moi, personnellement, pour le gérer de l'autre côté, soit pour avoir eu un service de tutelle, soit ALMA maintenant, c'est finalement, quand ça se passe en famille, on n'a pas tellement besoin du juge. Enfin, je veux dire, quand la famille s'entend bien, vous avez des tas d'enfants qui s'occupent des comptes de leurs parents.
D'une façon naturelle.
Sur le principe, j'allais dire. Ouais. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des dérives aussi, on n'est pas là pour le voir. Mais quand c'est la famille qui demande, et parce qu'il y a des conflits, il le confie à un membre de la famille. Moi, je trouve toujours, disons très souvent, on va pas tomber dans les excès, que c'est pas forcément la bonne idée.
C'est vraiment très spontanément conflictuel. Spontanément, choisir quelqu'un de la famille, mais au fond, c'est pas la bonne solution.
Non,
quand il y a des conflits.
Le problème, c'est que nous, quand ils arrivent, c'est des conflits. Hein. Donc effectivement, la focale que nous avons est quand même un peu différente. Et quand j'avais un service de tutelle, c'était pareil. Quand ils arrivaient, les gens, c'était forcément, pas si on nous l'avait confié, c'est qu'il y avait des difficultés. Mais c'est quand même, on s'aperçoit que quand c'est en famille, c'est compliqué. Parce que d'autant que les raisons de vouloir la maintenir en famille, alors soit parce que ça, on fait partie d'un pays où la famille reste une ressource, et puis si les gens ne confient pas la tutelle à un tiers, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas payer, puisque la tutelle, elle est facturée quand elle est extérieure. Mais par contre, si elle reste en famille, on va accuser celui qui la gère de... Et à ce moment-là, on rentre dans des délires qui, en plus, s'appuient sur des choses difficiles à vivre pour la famille. C'est toujours très compliqué.
C'est ça. Alors du coup, si ce n'est pas une personne de la famille que vous préconiseriez, quel type de personne ?
Quand c'est une famille où ça se passe bien, il n'y a pas de raison d'aller. Mais sinon, ce que disait Jean-Claude Cadillac, les tuteurs privés, les associations de tutelle, alors c'est vrai aussi qu'elles sont super encombrées. Et que ça, effectivement, je pense qu'une des raisons de nos familles aussi, c'est que ce n'est pas si facile de trouver un nombre de tuteurs satisfaisant. À ma connaissance, il n'y a pas pléthore. Hein. Je ne sais pas comment c'est sur Montpellier maintenant, mais... ça reste une difficulté de trouver des tuteurs.
Y a-t-il des questions que j'aurais omises pour rester dans un domaine un peu général de la mise sous tutelle avant de passer peut-être à des situations plus particulières ?
Ça
va, j'ai bien fait mon boulot.
C'est ça. Hein. Bon. Je crois qu'on a dit les choses essentielles.
Alors, je vous propose Julien Clerc qui te propose dans son dernier album Je t'aime, etc., extrait de son album À nos amours.
Je sais, c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais, c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. La 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 la. Je t'aime, etc. Je sais, c'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace, tu te lasses, mon amour. Tu sais, ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitruque, il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Les beaux jours, mon Dieu, qu'ils passent vite, et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire, et qu'un jour on s'aime, etc. Je t'aime, etc. Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs. N'oublie pas.
Sur FM+, avec Julien Clerc, un extrait de son dernier album À nos amours, qu'il a intitulé Je t'aime, etc. Avec nous, sur ce plateau de FM+, 91 FM à Montpellier, nous sommes avec l'association ALMA, ALMA 34, une association à l'écoute téléphonique de toute personne qui subit une maltraitance ou encore de toute personne témoin d'une maltraitance à l'encontre d'une tierce personne. Est-ce que nous donnons le téléphone tout de suite, Hélène Albert, qui est à mes côtés, qui en est la directrice de ce centre ALMA?
Le 04 67 04 28 50, tous les jeudis après-midi de 14h à 17h, et il y a un répondeur tout, en permanence.
En permanence. Alors nous évoquons avec vous et M. Cadillac, médecin psychiatre pour ALMA 34, la question de la mise sous tutelle. Alors il y a un cas paradigmatique, et l'affaire Bettencourt, que auditeurs, auditrices ont certainement suivi ces quatre dernières années passées, qui montre là, en effet, tout ce qui se joue lorsqu'une personne fortunée présente des signes de faiblesse mentale.
Oui, je vais rappeler rapidement les grands traits de cette affaire. Bon, tout le monde l'a suivi, etc. Bon, on a vu qu'il y a eu des décisions de justice successives, contradictoires, donc c'était une affaire très compliquée. Mais il est évident que ce qu'on peut comme ça dire comme grande ligne, c'est que au début de l'affaire, hein, si vous voulez, cette dame, elle a encore quand même des capacités cognitives qui lui paraissent à elle suffisantes pour ne pas avoir besoin d'être aidée par une mesure de protection, et que au fur et à mesure, évidemment, que les choses avancent et que les difficultés chez elle s'aggravent, tout le monde est d'accord pour dire qu'à ce moment-là, il faut une mesure de protection. Et c'est de s'entendre entre deux, si vous voulez, que souvent se posent les situations les plus délicates et les plus douloureuses.
Mmh. Alors là, on évoque l'affaire Bettencourt parce que justement, lorsqu'on arrive dans une situation de maladie psychique, la mise sous tutelle intervient.
Oui.
Hélène Albert.
C'est, je pensais en écoutant Jean-Claude Cadillac qu'effectivement, on avait une fois une dame comme ça qui ne présentait pas des troubles cognitifs qui s'affichaient comme ça, mais c'était son mari qui s'occupait de tout. Et quand elle est devenue veuve, elle a voulu vivre en plus sur le même train de vie.
Le même train de vie qu'autrefois.
Qu'avant le décès de son conjoint. Donc les revenus avaient un peu diminué, etc. C'était pas sur un grand pied au sens affichage. On n'était pas chez Bettencourt quand même, si vous voulez. Mais enfin, c'était quand même, elle avait des aides à domicile, un jardinier, machin, etc. Elle avait décidé qu'elle... Et il fallait lui expliquer que ça ne marchait pas. Parce qu'elle, forcément, les réserves diminuaient à une vitesse... Et ça, donc on a mis en plan la demande de mise sous protection, et elle n'arrivait pas à l'accepter parce qu'on la privait, elle n'arrivait pas à comprendre, si vous voulez, qu'on la prive
de ses biens
et de ses aides, etc. Alors on a laissé des aides, bien sûr, parce qu'elle en avait besoin, mais si vous voulez, on a quand même limité, fait la différence entre... Alors ça, c'est les choses qui arrivent. Ce qui arrive aussi beaucoup, c'est... et là, la personne ne se rend pas compte pour d'autres raisons, enfin, ne se rend pas compte ou ne veut pas se rendre compte. Il y a des fois, c'est pas très clair. C'est quand effectivement, il y a un nouveau conjoint qui arrive à un âge assez avancé. Et le conjoint le plus jeune n'est pas toujours là uniquement par amour. Ou peut-être quelques sentiments, c'est vrai. Mais, et alors, généralement, la famille se dresse assez vite. Mais la famille n'est pas toujours là pour le voir. Et là aussi, ça peut prendre des proportions difficiles.
Ça,
et là,
c'est un cas
pour mettre en
pour
place une demande de mesure, puisque la personne elle-même est persuadée que son amour est un grand amour et qu'elle ne court aucun risque. On a eu plusieurs cas comme ça où les gens s'étaient retrouvés à la rue. Et là, alors là, effectivement, et ça, on n'en a pas eu qu'un, si vous voulez. C'est pas...
L'amour rend aveugle, dit le dicton, et à tout âge, je le constate en vous écoutant.
Voilà, je ne sais pas si c'est l'amour, si c'est... Oui, il y a sûrement aussi de l'amour dans certains cas, mais c'est parce que c'est aussi difficile de dire qu'on s'est trompé à ce point-là. Je crois qu'il y a plein de choses qui sont délicates. Hein. Puis alors, le grand cas, c'est la famille qui se rend compte qu'il y en a un qui s'occupe de l'argent et qui s'en occupe un peu trop bien. Et tout d'un coup, on réalise que... on va perdre une partie de son héritage. Alors là c'est l'horreur à gérer. Si vous voulez. Parce qu'en réalité, la situation s'est installée pour de bonnes raisons. Elle est peut-être encore bonne, mais tout d'un coup, ça dérape. Parce que la personne âgée n'est plus elle-même assez forte, si vous voulez, pour distribuer les cartes comme elle l'entend. C'est de toute façon très difficile à gérer.
Monsieur Cadillac, auriez-vous d'autres... comme ça,
oui, moi je vais parler un petit peu de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire du handicap psychique, parce que figurez-vous que nous avons beaucoup alors de gens qui ont une maladie psychique et qui nous téléphonent pour se plaindre en disant j'ai besoin de ci, mon tuteur ne veut pas me le donner, donc il ne prend pas en compte de savoir si ses ressources sont limitées, qu'il a peut-être épuisé son... Non, lui, il va dire c'est pas supportable, ce tuteur m'interdit de l'argent, donc vous téléphonez, faites quelque chose.
Voilà. C'est ça, il ne comprend pas la situation.
Voilà, il ne veut pas accepter cette situation voilà, telle qu'elle est. Et ça, si vous voulez, c'est très fréquent hein, comme appel. C'est un des appels pas fréquents. Alors, parfois, ça arrive à une complexité. Je vais vous citer un exemple que j'ai en tête, mais il s'agissait justement d'un malade schizophrène qui... à l'arrivée, à la fin, persécuter ses parents en leur demandant toujours, toujours, toujours de l'argent, et alors qu'il était sous tutelle, mais lui, il s'en fichait. Du moment que ses parents avaient de l'argent, il ne voit pas pourquoi il n'en donnerait pas. Donc, si vous voulez, ses parents étaient dans une situation tellement difficile qu'ils sont arrivés à demander pour eux d'être mis sous tutelle. Afin que ça leur serve, si vous voulez, comme une réponse possible à ce fils qui était sans cesse à réclamer près d'eux des exigences. Voyez.
Mais là, finalement, cette question de la mise sous tutelle, elle a tout son sens. C'est un médiateur qui intervient. Une tierce personne, comme vous
c'est
disiez.
C'est la protection.
Et c'est finalement, c'est ça. Elle joue bien son rôle dans ce cas-là précis qui semble extrême, mais...
Bien sûr, hein, si vous voulez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il vaut mieux mettre du tiers que mettre trop de famille, hein, ça complique. Voilà. Mais c'est vrai que le handicapé, l'handicap mental, par exemple, bon, là aussi, c'est une histoire de niveau, hein, mais si vous voulez, généralement, il ne me remet pas en cause la protection, puisqu'il sait qu'il en a besoin. Et là, quand on pour revenir à nos maltraitances, dans ces cas-là, on risque d'avoir encore, bien sûr, des maltraitances, mais qui vont probablement venir de la tutelle. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des tuteurs maltraitants, il faut quand même pas l'oublier, et qui parfois détournent de l'argent indûment. Donc il y a des situations très réelles d'abus et de maltraitance dans le handicap mental. Voilà.
Oui, Hélène Albert.
Oui, parce que c'est tout à fait vrai. Il y a des tuteurs qui sont maltraitants, sous une forme ou sous une autre. Mais ce qu'il y a aussi, c'est vrai qu'au départ, si vous voulez, il n'y avait pas autant de publics âgés. On ne gère pas la tutelle d'une personne âgée de la même façon que les handicaps qu'évoquent ne doivent pas être gérés pareil. Un cas social. Vous voyez, il y a quand même des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Et quelquefois, les tuteurs, compte tenu du nombre de relativement peu important, surtout dans le secteur personnes âgées. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être le tuteur. Alors, c'est vrai qu'il y en a des pas honnêtes, ça c'est sûr. Mais c'est vrai aussi que c'est très souvent la mauvaise personne. Hein, c'est parce que c'est toujours lui qui refuse, c'est toujours lui qui, etc. Alors, à tort ou à raison, mais c'est très très compliqué. Hein, mais de toute façon, c'est vrai que c'est d'abord la faute du tuteur. Une fois pour toutes, on commence là. Après, on examine. Mais...
Alors, vous confirmez bien qu'auprès de nos auditeurs et auditrices, que si toute personne se trouve comme ça dans une difficulté liée à la mise sous tutelle, on peut vous appeler? Ou est-ce que vous allez diriger les personnes vers d'autres lieux?
Comme pour la plupart des appels, on finit par aller, puisque nous, on n'est pas là pour agir. Donc, on aiguille les personnes, on suit le dossier, etc. Donc là,
vous
ça
êtes
va
comme
être pareil.
Un premier contact.
Un premier contact qui permet souvent aux gens de dire ce qu'ils ont envie de dire, de se soulager, comme c'est au téléphone aussi, tout ça, c'est plus facile. Et après, effectivement, voilà, c'est pas
et
nous qui, de toute façon...
Et puis d'éclaircir la situation, peut-être.
Et d'éclaircir.
Le fait même de vous appeler...
On prend toujours contact avec les partenaires.
Voilà, voilà. Est-ce que parfois, ça mène à des situations de judiciaire, ces difficultés-là?
Avec les tutelles, ça repasse forcément par le juge, hein, à un moment ou à un autre. Hein.
Après, d'accord.
C'est lui qui va trancher. Hein.
Ah, c'est lui qui tranche.
Ah, oui, voilà. Lorsqu'il y a une anomalie et qu'il faut la résoudre, c'est par lui que ça va passer.
Hein. Toujours,
ça,
oui.
C'est une mesure de justice. Il ne faut pas oublier que la mise sous protection du juge est une mesure de justice.
Voilà. Et quand elle se passe mal, c'est à nouveau la justice qui intervient.
Bien sûr.
Alors, on peut aider à expliquer pourquoi et construire le dossier pour dire pourquoi ça se passe mal, mais en tout cas, cette décision ne nous appartient pas.
Moi, ce que je voulais redire, c'est ce que je disais au début, c'est que quand même, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, hein, et que la réforme des tutelles a été une réforme très importante, hein, parce que bien souvent, si vous voulez, les juges des tutelles avant, par exemple, débordés ou parce qu'ils avaient des certificats, ou parce que c'était très compliqué pour se dépasser, ils ne voyaient pas. C'est-à-dire la mesure de tutelle était prononcée sans... Bon, là, c'est pas pensable. Hein, si vous voulez, tout le juge de tutelle rencontre toutes les personnes. Hein. Donc ça, c'est une réforme importante. Ensuite, si vous voulez, la modulation de la mesure de tutelle et les possibilités multiples qu'offre la curatelle, ça a beaucoup changé aussi les choses.
Hein, est-ce qu'il y aura encore d'autres changements à faire?
Oui, mais il y en a toujours, si vous voulez. Mais j'insiste aussi là-dessus, cette réforme a demandé, si vous voulez, que soit pris en compte le discours de celui qui était mis sous tutelle. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui est présente une insuffisance mentale, par exemple, eh bien, on va le convoquer, on va lui dire, et on va discuter parfois avec lui quelle est la bonne mesure de tutelle, jusqu'où il faut aller. Donc, il a son mot à dire,
c'est
et ça, c'est quand même très
important.
Il y a
un accompagnement qui a été installé,
il y a
qui
un accompagnement
pas autrefois.
Qu'elle a, et le tuteur joue ce rôle d'accompagnement, alors qu'avant, c'était les sous, point final.
C'est ça.
Oui, ça, c'est vrai.
Ouais. On s'arrête là, Monsieur Cadillac, si Madame Albert.
Comme vous le sentez.
C'était avec nous Alma 34 sur les ondes FM+, Alma 34 que nous retrouvons une fois par mois dans notre Vivre Ensemble. Merci à tous les deux.
Merci.